Chapitre 1. Mitch. Il se tenait debout, devant la table en bois, le dos un peu voûté pour remplir son verre sans en verser à côté. La radio jouait un air venu de loin, un mariage de rap et de bossa nova, aussi bâtard que le chat de gouttière qui avait élu domicile dans la courette, derrière la librairie. Mitch l'avait découvert à sa sortie de prison, un mois plus tôt. L'animal avait dû s'y installer pendant qu'il purgeait sa peine. En 5 ans d'absence, une épaisse couche de poussière s'était invitée à l'intérieur et un matou patibulaire à l'extérieur. Comme on ne lui avait rien volé, Mitch, dont l'esprit rêveur ne manquait pas d'imagination, en avait conclu que le félin avait veillé sur les lieux et dissuadé les rôdeurs. De quoi s'attacher à lui et le nourrir le soir avant de fermer boutique. Le chat, d'abord méfiant, avait fini par se laisser approcher. Mais malgré tous les efforts du libraire, il n'avait jamais voulu entrer dans la réserve, même les nuits où la pluie tombait de rue. Le vrai prénom de Mitch, choisi par ses parents bien avant sa naissance, était Michel. Mais sa mère, une relieuse éprise de vieux films noirs, l'avait toujours appelé Mitch. Son père, ouvrier, érudit et travailleur, avait commencé à trimer dans une imprimerie dès ses 15 ans et jusqu'à sa mort accidentelle à 51 ans. Lors d'une opération de graissage, la butée de sécurité d'une rotatrice avait lâché et la machine avait happé le mécanicien, dans un craquement sinistre, alors qu'il passait entre deux rouleaux. Une fin cruelle pour un homme qui n'avait eu pour seul luxe que les livres. Père et fils s'étaient côtoyés, passant de longs moments à bricoler, jouer aux échecs les dimanches pluvieux, et taper le ballon quand le temps le permettait. Mais par pudeur, ils avaient évité de se connaître. Leur vie s'était cachée derrière des personnages de romans et la transmission des valeurs puisées dans des conversations qui parlaient de passion, d'errance, d'espoir, de solitude et d'ivresse. Ce ne fut qu'un an après sa mort que Mitch comprit la dimension de l'héritage que son père lui avait laissé. Et ce, chaque fois qu'il le retrouvait dans les pages d'un livre, le plus souvent dans des rôles secondaires. Mitch découvrait sous la plume d'Hemingway, de Yeats, de Bowles et d'autres, des phrases ou expressions que son paternel avait faites siennes. Des mots simples, comme il les aimait. Quand Mitch, adolescent, l'avait interrogé sur l'existence de Dieu, son père lui avait répondu « Le scepticisme commence quand, assis dans une église, entre un flic et une bonne sœur, tu constates que ton portefeuille a disparu. » Un soir où il se rebellait contre ses professeurs, il l'avait consolé en lui disant « Regarde-moi, je survis, j'endure. » Il avait marqué une pause. « Je garde le contrôle de la situation. » Et tel un remède infaillible aux inquiétudes de sa femme quant aux fins de mois, il répétait « Ne te fais pas de bile, veux-tu, tout se passera bien. » À l'imprimerie, comme dans leur quartier, les gens considéraient avec amusement, étonnement et parfois suspicion la façon de parler de son père. En fin de compte, Mitch était probablement celui qui le comprenait le mieux, même s'il n'avait jamais réussi à savoir si les humeurs de son vieux, car le travail l'ayant usé plus vite que nature, il avait fini par le devenir, était ou non emprunté à une œuvre de fiction. 3 semaines après l'accident fatal, sa mère avait revendu le pavillon familial et s'était installée au bord de la mer. Mitch s'était vu remettre par un notaire un tout autre héritage, plus modeste, sous la forme d'économies placées sur un compte d'épargne dont il était le légataire. Pas vraiment un pactole, mais une cagnotte suffisante pour qu'il s'offre un petit studio. Et à son père, une sépulture plus belle que le rectangle de pelouse sous lequel il reposait. Mitch avait dépensé jusqu'à son dernier sou pour lui construire un temple qui le rendrait éternel. Une jolie librairie, située à 2 pas de la gare. Ce n'était pas par hasard qu'il avait choisi ce local, les trains de banlieue ayant consumé une grande partie de l'existence de son père. 2 heures le matin, autant le soir, qu'il consacrait entièrement à la lecture, ratant même parfois son arrêt. des milliers d'aubes et de crépuscules avalés à travers la vitre, assis sur une banquette, loin du confort d'un fauteuil de salon. Mais, comme il se plaisait à le répéter, « Avec moi, les livres voyagent ». Une citation dont Mitch n'avait pas encore identifié l'auteur. En cette soirée de printemps où le ciel bleu avait grignoté les nuages, Mitch avala d'un trait le gin qu'il s'était servi. L'alcool le fit tousser. Il n'avait aucun penchant pour la boisson et ne buvait que pour nettoyer sa gorge des impuretés ingurgitées au cours d'un grand ménage. Depuis sa sortie de prison, il occupait son temps à récurer les tables, poncer et revernir le comptoir, frotter le parquet, dépoussiérer les bibliothèques, épousseter chaque livre avec un chiffon sec afin d'en raviver les tranches et les couvertures. Demain dimanche, il s'attaquerait à la dernière touche, et lorsque la vitrine aurait retrouvé sa transparence, il s'accorderait une après-midi de repos. Viendrait alors enfin le jour de la réouverture officielle. Les murs de la librairie et du studio qu'il occupait en banlieue lui appartenant, Mitch avait de quoi maintenir son commerce à flot, à condition de faire attention, à condition aussi que la clientèle revienne. Heureusement, sa condamnation n'avait pas été assortie d'une amende ou d'une saisie de ses biens. Le juge avait dû estimer que lui confisquer 5 ans de vie était suffisant. Les éditeurs, qui pour une fois s'étaient mis d'accord, avaient renoncé à récupérer les livres en dépôt et solder son compte. Le stock datait, mais les classiques demeuraient indémodables. Le rayon pour enfants conservait sa jeunesse, la papeterie ne vieillissait pas. Armé de patience et d'optimisme, Mitch était décidé à renouer avec sa vie d'avant. Il versa une tasse de croquettes dans une assiette creuse qu'il emporta, éteignit la lumière, mit l'alarme et sortit dans la courette pour donner son repas au fidèle gardien de nuit qui se précipita vers lui en ronronnant. Comme chaque soir depuis qu'il était sorti de prison, il jeta un regard vers la trappe à charbon qui s'ouvrait sur la cave. Il n'avait pas encore eu le courage d'y descendre. Lorsqu'il s'en était approché, les souvenirs avaient ressurgi. Il y arriverait peut-être un jour, mais pour l'instant, c'était trop tôt, trop douloureux. Il avait 10 minutes pour grimper dans son train, le dernier à ne pas rater s'il voulait dormir dans son lit ce soir. La gare n'était pas loin. Même avec sa patte folle, il arriverait à temps. Il salua le chat et remonta la ruelle. Chapitre 2. HB 1467. 5 ans et demi plus tôt. Quelqu'un s'était introduit dans la remise, il en était certain. Mais dans quel but ? Il n'y avait aucun objet de valeur, du moins pas du genre que la plupart des hommes convoitent, et rien ne semblait manquer. Mitch connaissait si bien son antre qu'il avait suffi d'une anomalie pour l'alerter. Un livre n'était pas correctement empilé sur les autres, comme si l'intrus avait pris l'ouvrage en main, puis l'avait reposé, mais pas exactement là où il l'avait trouvé. Un constat doublement étrange, car il était tout aussi certain d'avoir laissé sur le haut de la pile un exemplaire de la Servante écarlate. Or, c'était le rouge et le noir qu'il observait. La serrure de la porte qui donnait sur la courette était intacte. Le tapis qui recouvrait la trappe n'avait pas été déplacé. Il l'avait acheté dans une brocante par un mardi pluvieux, 2 semaines après la promulgation de la loi HB 1467 qui avait changé sa vie. Mitch chassa ce souvenir et se concentra sur ce qui l'occupait. Impossible qu'on se soit aventuré dans la librairie durant les heures de fermeture. L'alarme se serait déclenchée. Par où l'intrus était-il passé? Et quel était l'objet de sa visite nocturne? Il scruta les lieux, songeur et inquiet. Si ce qu'il pressentait était avéré, il faudrait trouver au plus vite un endroit où mettre son trésor à l'abri. Transporter 150 kilos de marchandises était inenvisageable et il ne pouvait compter sur une aide extérieure sans qu'on lui pose des questions. Peut-être était-ce la complexité de la tâche qui lui fit entrevoir la possibilité qu'un rongeur soit le coupable. Un rat, dans son élan, aurait pu déplacer le rouge et le noir. L'édition de poche ne devait guère peser plus de 200 grammes. Cette hypothèse le rassura. Il remit le livre en place, inspecta encore les lieux par acquis de conscience et retourna s'installer derrière le comptoir. Mitch aurait dû écouter son instinct. Céder à la facilité allait faire de lui un jour un criminel.